Chères auditrices et chers auditeurs, avant de vous laisser écouter cet épisode, l'équipe Cultura et moi-même tenions à vous informer que la communauté Cultura Créa ferme ses portes fin avril 2024 pour mieux se réinventer plus tard. Nous vous remercions donc très sincèrement pour toutes vos écoutes du podcast, vos retours et votre bienveillance à l'intention des créatifs qui sont passés au micro du podcast. Membres de la communauté et collaboratrices et collaborateurs de Cultura, un grand merci à vous pour cette expertise et cette passion partagée autour du DIY et des beaux-arts. Nous nous sommes régalés. Du côté du podcast, les épisodes restent en ligne, donc vous pouvez continuer d'écouter ou de réécouter les épisodes autant que vous voulez. Je vous invite par exemple à écouter les épisodes autour du macramé, des mangas, de l'argile, des feutres à alcool, de la broderie, du moulage de savon et de bougies, ou encore du tricot. Vous ne devriez donc pas manquer d'inspiration créative pendant les prochains mois. On vous donne évidemment rendez-vous sur cultura.com pour la suite des aventures. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Cultura Créa. Je m'appelle Mélanie Sena et je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour parler loisirs créatifs et beaux-arts. Un jeudi sur deux, je partage avec vous des rencontres avec les équipes de Cultura et avec les membres de la communauté Cultura Créa. Que vous soyez débutant ou plus expérimenté, que vous préfériez créer seul ou en famille, nous vous parlons de tous ces arts créatifs que vous aimez. Aujourd'hui, place à l'aquarelle avec deux fans d'aquarelle et membres de la communauté Cultura Créa, aussi connus sous le pseudo Trois Princesses à la Maison et Valérie alias Purple Jumble. Léa et Valérie partagent avec nous énormément de conseils pour se lancer ou pour se perfectionner, quant au choix du pinceau, du papier, des pigments, car mine de rien, les gammes sont très vastes et on peut vite s'y perdre lorsqu'on démarre. Bonne écoute.
Bonjour Léa, bonjour Valérie, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Cultura Créa, bienvenue.
Bonjour Mélanie.
Merci. Bonjour.
Merci beaucoup.
Alors, on va commencer par les présentations. Léa, est-ce que tu peux nous raconter qui tu es, s'il te plaît?
Je suis Léa, je fais des loisirs créatifs et du beaux-arts depuis toujours, mais je m'y suis vraiment mise à la naissance de ma seconde fille à partager sous le pseudo Trois Princesses à la Maison. D'abord sur Instagram et puis aussi sur Cultura Créa, où j'étais ambassadrice en 2021.
Ah,
et où, voilà, maintenant je suis juste membre active et passionnée.
Ok, donc beaucoup d'aquarelles, parce que donc, c'est la thématique de notre épisode, mais aussi plein de choses.
C'est ça, pas que aquarelles. Je touche pas à tout, mais l'éventail est vaste, des perles, de la broderie. Je suis en train d'apprendre le crochet en ce moment. Et l'aquarelle, ça doit faire quelque chose comme 2 ans. Je m'y suis mise à Noël, pas l'année dernière, l'année d'avant. Et je n'ai pas arrêté.
Ok, super. Et toi, Valérie?
Moi, écoute, voilà, Valérie, ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Écoute, moi, c'est pareil, un peu comme Léa, je faisais tout un tas de choses en activité créative jusqu'à découvrir l'aquarelle il y a bientôt 4 ans. Et du coup... je me consacre quasiment plus qu'à ça aujourd'hui. Et j'ai même eu la chance de faire un livre pour les éditions de Saxe. Voilà, Aquarelle fleurie au fil des saisons, dont on a parlé la dernière fois.
Exactement, sur Femin, mon podcast à moi. Il est paru le livre il y a 6 mois environ.
Oui, c'était au mois de mai de cette année, ouais, tout à fait.
En même temps que le mien.
Oui, oui, oui.
Alors, tu dis que tu ne te consacres qu'à l'aquarelle, mais c'est pas ton activité principale, hein. Tu es salarié
oui,
à plein temps.
Oui, oui, oui. J'ai un travail à côté, j'ai 3 enfants, et puis sur mon temps libre, je pratique l'aquarelle. Voilà, je fais encore un petit peu d'autres choses à côté. J'adore la cricket notamment, mais voilà, comme j'ai peu de temps libre, je me focus sur l'aquarelle et voilà, ça m'a pris beaucoup de temps je me suis mis à fond dedans pour pouvoir faire mon livre et puis je continue. Voilà, c'est toujours l'activité que je privilégie quand j'ai un peu de temps pour continuer à me perfectionner, à essayer des nouvelles choses. Voilà.
Très bien. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'il y a un deuxième qui arrive?
Oui, 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 bien sûr. On l'avait dévoilé en avant-première dans l'épisode de ton podcast. Donc oui, celui-ci devrait sortir. Enfin, il sortira l'année prochaine. Je n'ai pas encore la date exacte, mais ça sera un livre pour débuter. Voilà, vraiment débutant aquarelle avec des techniques de base, des tutos. Et toujours ce que j'aime le plus, enfin, ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est le système de QR code pour pouvoir accéder à des vidéos. Je trouve que c'est le vrai plus du livre, hein. Pas que des photos et des explications, mais de pouvoir accéder à des vidéos pour bien voir les gestes. Et, à mon sens,
ouais.
C'est ce qui est le plus utile quand on débute.
Oui, ouais, c'est sûr. Ouais.
Voilà, donc je travaille dessus.
Félicitations.
Donc toujours pendant ton temps libre, mais c'est difficile, quoi, d'avancer.
Oui, c'est ça. Ben oui, oui, surtout que voilà, selon les périodes de l'année, mon travail est plus ou moins intense. Donc du coup, j'ai pas toujours autant de temps libre que je le souhaiterais. Alors voilà, c'est de l'organisation. Puis 3 enfants aussi, c'est ça prend un petit peu de temps. Voilà.
Donc
j'essaye, voilà, j'essaye de tout faire coïncider. Et voilà, c'est pas toujours optimal, mais j'essaye de faire au mieux.
Ouais, ok. Alors, Léa, Valérie, si je veux débuter, on va essayer d'organiser notre épisode en 2 parties. Je suis jamais aussi structurée d'habitude. Mais là, l'idée, en fait, c'est de s'adresser aux personnes qui n'ont jamais encore pris un pinceau, ou alors un pinceau mais qui date de la maternelle ou de ou du collège. Et puis après réfléchir ensemble à comment on peut se challenger un petit peu une fois qu'on a déjà quelques heures de peinture derrière nous. Alors, pour démarrer, de quoi j'ai besoin, Léa ?
Un pinceau, ça peut être bien. Mais un pinceau spécial aquarelle. Ça, je pense que c'est une des petites choses importantes. On ne fait pas de l'aquarelle avec n'importe quel pinceau. Il faut un pinceau pour l'aquarelle. Du papier avec un grammage important, que ce soit cellulose ou coton. Il faut du grammage, sinon ça va tout gondoler.
Parce et de l'aquarelle. Et les pigments. Le principe de l'aquarelle, c'est vraiment, c'est dans son nom, hein, aqua. On utilise beaucoup d'eau.
C'est ça, on va utiliser beaucoup d'eau pour peindre, on va jouer avec la transparence de l'eau et les pigments pour faire notre peinture, et du coup il faut que le papier soit en capacité de supporter toute cette eau, donc il faut un grammage important, au moins 250 je dirais.
Ça marche. Valérie, tu veux compléter ?
Là, citer les trois, les trois outils indispensables.
Peut-être que tu peux nous préciser sur l'utilisation du papier, enfin le choix du papier, cellulose et coton.
Quand on débute, c'est sûr qu'on ne va pas forcément mettre un budget très très conséquent pour démarrer, parce qu'on a envie d'abord d'essayer, de voir, de faire des tests, arriver à voir si on arrive à maîtriser justement le pinceau, les pigments. Donc en principe au départ, on part sur du matériel entrée de gamme, qui va pas forcément coûter très cher, pour voir si ça nous plaît. Donc c'est sûr que à ce moment-là, le papier cellulose, c'est le papier avec lequel on va démarrer, parce que ça reste quand même des tarifs raisonnables. Donc le papier cellulose, quand on débute, je pense que c'est un peu incontournable. Mais si c'est une technique qui plaît, on va vite être un peu frustré parce que la qualité est pas très satisfaisante. Donc pour faire des essais, s'entraîner et ne pas avoir peur de gaspiller du papier, c'est très bien. Et dès qu'on veut monter un peu en gamme et pouvoir améliorer sa technique et avoir des beaux résultats, passer sur du papier coton, ça devient vite incontournable.
Ouais.
Donc c'est sûr que le papier, c'est quand même un des éléments les plus importants, parce que selon ce qu'on utilise, on n'aura pas les résultats très satisfaisants. Donc un papier aquarelle, voilà, du papier spécial aquarelle, qui est suffisamment costaud pour absorber toute l'eau qu'on va utiliser. Et comme le disait Léa, en principe, on part sur du 300 grammes. Il y a des carnets à 250 grammes qui tiennent bien la route. Et ça permet justement, voilà, si on veut peindre avec des quantités d'eau importantes, au moins le papier réagit bien, il ne gondolera pas. Et l'avantage du papier coton, c'est qu'il absorbe beaucoup moins vite l'eau que le papier cellulose. Donc du coup, on arrive à travailler dans l'eau longtemps. On peut faire tout ce qui est les techniques de mouiller sur mouiller, obtenir des fusions, rajouter du pigment là où on a déjà peint pour pouvoir avoir ces mélanges de couleurs. Faire des effets de texture aussi en rajoutant des cristaux de sel qui viennent absorber les pigments. Enfin, tout ça, il faut le faire sur un papier de qualité. Et le papier coton, c'est celui avec lequel on a les meilleurs résultats.
Oui.
Après, il y a plusieurs types aussi de types de grains. Il y a le papier sur lequel on part en général, c'est du papier grain fin. Après, il y a le grain torchon qui est très texturé, où là, ça peut avoir un intérêt pour obtenir des effets, notamment sur des paysages. Puis après, il y a le grain satiné. Alors ça, moi, celui-là, je l'ai jamais essayé. Mais c'est encore un peu différent, il réagit de façon différente, il sèche plus vite aussi, donc selon ce qu'on veut faire, voilà, c'est un peu particulier. Mais du grain fin, 100% coton, c'est vraiment le papier idéal pour peindre à l'aquarelle, avoir des beaux résultats.
Bon, nickel.
Et après, au niveau des pinceaux, c'est pareil, il y a plein de sortes de pinceaux. Déjà, il y a des pinceaux en fibre naturelle ou en fibre synthétique, donc ça, c'est une question de choix, c'est un peu personnel. Moi, j'ai jamais utilisé de fibre naturelle. Voilà, et du coup, au niveau des pinceaux, donc il y a ces types de fibres-là, et puis après, il y a le pinceau lui-même. La plupart du temps, on utilise un pinceau à bourron, donc avec une touffe assez courte, et selon les modèles, le bout est plus ou moins pointu, mais c'est le pinceau passe-partout, en fait, pour peindre tout type de choses. Après, il y a les tailles de pinceaux aussi, où la touffe va être plus ou moins grosse. Après, il y a d'autres types de pinceaux. Un autre pinceau qui est sympa, c'est les pinceaux à la vie, où là, ils ont une touffe beaucoup plus grosse, beaucoup plus dense et qui retient énormément l'eau. Donc là, c'est pareil, selon ce qu'on veut peindre, avoir un pinceau à la vie, ça peut être utile parce que ça permet d'avoir beaucoup d'eau sur le papier et de pouvoir travailler comme on le souhaite. Après, il y a d'autres types de pinceaux, formés éventail, des pinceaux traînards avec des pointes, des touffes très très longues. Voilà, selon ce qu'on veut peindre, il existe tout un panel de pinceaux. Donc ça aussi, quand on démarre, on part sur quelque chose d'assez simple. Et puis après, donc le pinceau à bourron classique. Et puis après, en général, on a vite envie d'élargir sa gamme de pinceaux pour pouvoir faire plein de choses.
Oui, donc justement, Léa, quand tu disais « il nous faut un pinceau », c'est, il nous en faut qu'un ou est-ce que on en... Moi, je crois que pour démarrer, j'en avais acheté deux. On m'avait conseillé d'en prendre deux.
Alors, moi, j'ai démarré avec un et je l'ai gardé pendant très longtemps et je l'utilise encore parce que...
D'accord.
Je dis, l'eau, du coup, t'as une vraie gestion de l'eau avec l'aquarelle et il faut connaître son pinceau. Donc, personnellement, quand j'ai trop de pinceaux, en fait, je sais plus comment il réagit. Donc, j'ai démarré avec un pinceau et attendu de bien, bien maîtriser comment il réagit avec l'eau, quelle capacité d'eau il... peut me garder, maintenant je le connais au poids je sais comment il est chargé en eau et quel effet je veux obtenir. D'accord. Donc si je dois le sécher ou au contraire retremper, et quand on change de pinceau c'est un changement d'outil, faut se réapproprier le nouvel outil. Donc je suis comme Valérie, hein, quand je vois un magnifique pinceau avec une forme un peu bizarre, ça m'attire et j'ai envie, mais finalement quand je dessine et que j'ai envie de pas faire des essais, mais pas me prendre la tête, mais vraiment dessiner, je reviens quasiment toujours aux mêmes 2-3 pinceaux favoris.
Ouais. J'ai démarré aussi avec un pinceau et que j'ai aussi utilisé pendant longtemps parce que je me sentais à l'aise. Et puis après, quand j'ai eu envie d'en essayer d'autres, j'ai essayé des marques qui me plaisaient. Puis après, j'en ai essayé d'autres qui me plaisaient aussi. Donc, j'alternais. Et depuis quelques temps, j'en ai trouvé qui me convenaient. Et c'est vrai que je reste un peu avec cela et que j'utilise un peu moins les autres. Mais c'est vrai que c'est une question d'habitude. Un pinceau, il y a quelqu'un qui va te dire « Moi, j'adore tel pinceau. » Ça m'arrivait d'acheter le même parce que j'avais lu des commentaires positifs. Je l'ai acheté, j'ai essayé. Ça m'a pas convenu. Je l'ai utilisé une ou deux fois. Je l'ai mis de côté. Et après, j'en ai essayé d'autres où là, j'ai dit « Ah oui, donc c'est vraiment… » un ressenti, j'ai essayé, j'ai dit ah oui, celui-là il est super, il réagit comme ci, comme ça, enfin je me suis sentie à l'aise avec cette marque-là, ce type de pinceau, et du coup j'utilise quasiment plus que cela. Après ça m'arrive de changer un peu, mais c'est vrai que c'est important d'être à l'aise avec son pinceau parce que on sait tout de suite comment l'utiliser et ce qu'on va obtenir, quoi. Voilà, il n'y a pas de mauvaise surprise.
Ouais, donc en fait il faut tester.
Oui, c'est ça, c'est vraiment une prise en main. Ouais, comment tu te sens toi avec ce pinceau-là, parce que ça va peut-être convenir à quelqu'un, mais ça ne te conviendra pas forcément à toi. C'est vraiment après, toi, ta façon de le tenir, de l'utiliser, du résultat que tu as envie d'avoir quand tu peins avec. Que oui, c'est assez personnel, le choix du pinceau.
Ça marche. Et les pinceaux à réserve d'eau?
Moi, j'aime pas du tout, personnellement. Non, j'ai essayé, j'arrive pas du tout à gérer l'eau, en fait. Ça coule quand je veux pas que ça coule, et ça, oui, c'est ou ça. C'est trop sec.
Enfin, c'est pas une bonne idée, quoi.
Disons que quand tu appuies sur la partie là qui permet de libérer de l'eau, en général, soit ça vient pas, soit tu appuies plusieurs fois, puis là, tu as une grosse goutte qui sort, donc tu peux avoir des petits accidents. Moi, c'est pareil. Ouais. Puis en plus, le poil est épais et pas du tout flexible. Donc, l'intérêt d'un pinceau aquarelle, c'est qu'il soit... Enfin, moi, j'aime bien quand ils sont assez flexibles, assez maniable. Là, le pinceau à réservoir d'eau, c'est super raide. Tu peux pas, enfin, t'as pas trop de dextérité avec, quoi. C'est pas très agréable. Alors après, quand tu démarres, que tu veux essayer, que tu sais pas, si tu as que ça, tu peux tester avec ça. Mais moi, mon conseil, c'est quand même d'acheter un pinceau aquarelle. T'en trouves à 4 €. T'as un pinceau aquarelle qui permet de démarrer, mais ça sera largement meilleur qu'un pinceau réservoir.
Qu'un pinceau réservoir, d'accord.
Je suis assez d'accord, et en plus avec un pinceau un peu classique, aquarelle, on peut quand même avoir des gestes qui nous rappellent un peu notre enfance, où on va l'utiliser en fait simplement comme un pinceau sans forcément bénéficier de toute l'étendue des techniques de l'aquarelle, mais déjà c'est dessiner, déjà c'est commencer à maîtriser son pinceau. Donc un pinceau aquarelle, même entrée de gamme, tout simple, avec lequel on pourra tout faire après. je partirai là-dessus.
Oui, c'est ça. On n'est pas obligé d'acheter une marque de pinceau très onéreuse. On trouve des pinceaux entrée de gamme à des prix vraiment, vraiment abordables et ça permet quand même tout de suite d'avoir quelque chose de correct.
Ouais. Après, il y a l'option kit. Moi, j'ai démarré avec un kit où il y avait le pinceau, quelques feuilles de coton, une petite palette de 12 couleurs d'aquarelle. Bah, ça m'a fait... Je l'ai encore, hein, mon aquarelle. Je crois que j'ai fini aucun des godets et je l'utilise activement depuis 2 ans. Mon pinceau, bah, je l'utilise encore. Bon, les feuilles, par contre, il n'y en avait que 5. Elles sont passées. Mais tout de suite, on démarre. C'est tout. Il n'y a pas besoin de poser des questions. Il y a le pinceau, il y a l'aquarelle, il y a le papier.
Oui, c'est une bonne solution parce que t'as tout ce qu'il faut.
Ouais. Ok.
Moi, ils n'existaient pas. Je vois duquel tu parles. Ils n'existaient pas encore quand j'ai démarré, mais c'est vrai que c'est chouette parce que au moins, voilà, t'as du matériel quand même de bonne qualité pour pouvoir te lancer. C'est bien. Ouais.
Et c'est quel kit ?
C'est le kit débuté à l'aquarelle de donc du coup Marie Bouton, des tribulations de Marie.
Bon, et en plus, il me semble aussi. Ouais. C'était chez Sennelier ou non ?
Oui, c'est Sennelier. C'est une collaboration avec Sennelier et en plus, elle a fait, il me semble, trois kits.
Oui.
Donc on peut en plus choisir une palette qui nous parle, qui nous plaît. On sort peut-être de certains kits où c'est des couleurs vraiment très traditionnelles. Là, les siens. Bah, y a une vraie recherche. Moi, j'ai pris la palette jungle parce que les couleurs, elles me plaisaient. C'était pas les couleurs primaires, c'était un rose légèrement rouge, un vert légèrement bleu, donc des couleurs un peu qui sortent de l'ordinaire. Et il y a déjà la palette qui est toute prête pour peindre des motifs floraux, des motifs de jungle.
Et le pinceau, c'est celui que moi j'ai acheté, mon premier beau pinceau aquarelle, en suivant aussi ses conseils. C'est le Raphaël Soft Aqua. Qui a un pinceau à la vie, mais super agréable à utiliser. C'est celui qu'elle préconisait. C'est celui que j'avais acheté et j'ai longtemps peint avec celui-là parce qu'il était vraiment très agréable.
Et alors, ça veut dire quoi, un pinceau à la vie?
Ben, c'est ceux qui ont, tu sais, qui ont une touffe un peu plus large. C'est beaucoup plus bombé. Et ils ont c'est une technique au niveau des pinces, des poils qui fait que ça retient beaucoup plus l'eau. Donc, c'est un pinceau qui se gorge d'eau. Donc le lavis, c'est une technique à l'aquarelle. Quand tu peins par exemple un fond, que tu peins une surface un peu importante avec de l'eau, du coup ce pinceau-là, il se gorge d'eau, il retient l'eau et du coup il reste longtemps chargé en eau et tu peux peindre des surfaces un peu plus grandes qu'avec un pinceau normal.
Et en même temps, il garde une petite pointe fine, ce qui fait que si on le tient bien à la verticale, on va pouvoir faire des détails. C'est pour ça qu'il n'y a pas la nécessité d'avoir plusieurs pinceaux, parce que rien que suivant comment tu tiens ton pinceau, plus à l'horizontale, on va pouvoir faire des gros aplats de couleurs, alors qu'à la verticale, on va pouvoir faire des petits détails minutieux.
C'est ça. Surtout que celui-là, il est fin, c'est une taille petite. C'est un 3-0, donc c'est le plus petit de la gamme. Après, tu peux avoir des pinceaux à la vie qui ont des touffes qui font 2, 3, 4 cm, où du coup, c'est très gros, et tu peux vraiment faire des choses... sur des grandes feuilles de papier. Là, celui-ci, il est super polyvalent parce qu'il n'est pas très large. Et comme tu dis, il est assez pointu et il est très bien.
Ça marche.
Pinceau à la vie, voilà, c'est ces pinceaux qui retiennent beaucoup l'eau et avec lesquels tu peux.
Plus que les autres.
Plus que le pinceau rond classique.
Quoi. Ouais, d'accord. Et alors, pendant que j'en suis à poser mes questions à moi qui m'ont toujours interpellée, pourquoi certains blocs de papier sont collés des quatre côtés? C'est pour pas que ça bouge ?
C'est pour pas que ça gondole, ouais. T'as des blocs, t'as des blocs avec les quatre côtés collés. Mmh. En général, le papier coton, il est comme ça, les blocs sont collés et t'as une petite ouverture, un endroit pour glisser un coup de papier ou un couteau. Mmh. Ça te permet en fait quand tu peins, ton papier il gondole pas, parce que si tu décolles ta feuille et que tu la poses sur ton bureau et que tu peins, alors un, ça va bouger. Mais même si tu mets du masking tape ou du scotch pour pouvoir le stabiliser sur ton bureau, le fait que la feuille soit seule, dès que tu vas mettre beaucoup d'eau, ton papier va gondoler. Alors que là, vu qu'il est les feuilles, elles sont collées les unes aux autres dans le bloc, ça gondolera pas.
D'accord.
Même si tu mets beaucoup d'eau. Donc il faut bien laisser sa feuille sur son bloc et peindre dessus et décoller une fois que c'est sec.
C'est quand tu utilises quand même vraiment beaucoup d'eau que tu travailles sur du bien mouillé, sur mouillé, parce que sur une utilisation simple,
c'est pas nécessaire. Fleur, voilà, si tu fais, même les tutos qu'il y a dans mon livre, il y en a qu'un où je peins un fond où il y a beaucoup d'eau. Tout le reste, ça reste des quantités d'eau raisonnables. C'est pas ta feuille, elle va pas gondoler, mais enfin, c'est quand même confortable d'utiliser ton bloc avec tes feuilles collées. Et voilà, moi, ça bouge pas, c'est bien stable, c'est quand même pratique.
Ok, donc on peut quand même acheter des blocs où les feuilles sont séparées. Je retire ma feuille du bloc, je la mets sur mon bureau et je peins. Mais effectivement, je fais attention à ne pas utiliser trop d'eau.
Oui, voilà, pour pas que ça dégole. De la fixer un peu aussi pour pas que ça bouge, quoi, c'est bien. Tu as les carnets aussi qui peuvent être sympas à utiliser, ça, selon ce que tu veux peindre. C'est sympa des fois d'avoir un carnet. Et tu fais toute une série dans ton petit carnet, c'est agréable.
C'est ça, on ne retire jamais la feuille.
Non, là, pour le coup, tu le gardes comme un cahier, en fait. Voilà, un carnet. Tu peins des deux côtés de la feuille, du coup. Mmh. Et voilà, c'est aussi une autre façon de peindre. Au lieu de faire sur des feuilles volantes individuelles, tu gardes tout dans ton joli carnet, ça peut être sympa.
Oui, ça c'est sympa, mais il faut être content de tout. Sinon...
Ou alors le voir comme un carnet d'essai, quoi. Voilà.
ouais, c'est ça.
C'est sur Instagram, il y a pas longtemps, j'avais lu une phrase, j'avais bien aimé. Bon, je me souviens plus exactement comment c'était écrit, mais ça disait que tous nos dessins c'était des essais.
Oui.
C'est-à-dire que même le jour où t'es content de toi, quelques mois plus tard, quand tu reviens, on est toujours super dur avec soi-même. Donc il a dit, pour faire simple, vous prenez tout comme des essais, comme ça, il n'y a pas de pression, on est là pour dessiner, pas pour... on va pas les vendre.
C'est ça. Mais le carnet, ça peut être sympa, ouais, pour garder quand tu te lances dans une série. Moi, je sais, j'ai un carnet pour les voyages. J'avais fait un carnet pour mes planches, pour mon livre. Enfin, et du coup, tu peux avoir un carnet pour plusieurs utilités. Et après, moi, je te cache pas que ça m'arrive. Je fais des tests des fois sur papier cellulose que je peux jeter si je suis pas contente avant de peindre dans mon carnet pour pas être trop déçue et pas gaspiller une page de mon carnet.
Ça marche. La petite astuce aussi qu'on peut partager au niveau du masking tape ou du petit scotch de peintre pour maintenir en place sa feuille, c'est de le coller plusieurs fois sur son jean. Oui. Ça, hein, pour le qui colle un petit peu moins et éviter qu'au moment où on le retire, bim, le papier qui se déchire.
Alors le masking tape, c'est suffisamment qualitatif, hein, selon le masking tape que tu prends. Mais si tu prends un vrai bon masking tape là, en papier de riz, ça colle pas beaucoup. Et là, tu as rarement de mauvaises surprises. Mais c'est vrai que moi, ça m'arrive quand même de le mettre sur le pantalon avant pour enlever un peu de colle et que ça arrache pas le papier. Parce que c'est du papier super fragile, le papier aquarelle quand même. Mmh. Donc quand tu enlèves ton scotch, ça part avec.
Ouais.
Tu peux enlever des morceaux.
Ouais. Mais le vrai papier, le masking tape en washi tape... Souvent, ils sont très jolis et t'as pas envie de les gâcher.
Oui, c'est vrai.
Un peu du masking tape de base.
Je comprends. Ouais, non, c'est sûr. Après, tu as du vrai scotch de masquage spécial aquarelle. Il y a des marques qui en font. Et là, t'as pas besoin de faire quoi que ce soit.
D'accord.
Il est nickel. Il est utilisable tout de suite comme ça. Voilà. Et il y en a qui est de bonne qualité, ouais.
Après, pareil, pour pas de mauvaise surprise, on prend une petite chute de papier d'un précédent dessin et on voit comment ça réagit, s'il y a besoin ou pas.
Ouais, c'est vrai qu'il faut faire attention parce qu'il ne faut pas prendre du scotch de bricolage et choses comme ça. Parce que ça... Le scotch de masquage pour la peinture, par exemple, ça va pas, quoi. C'est beaucoup trop abrasif.
Ouais. Oui, quand je disais scotch de peintre, c'est typiquement le genre de truc qu'il faut éviter.
Oui, voilà, il faut prendre vraiment quelque chose d'adapté parce que le papier est trop fragile pour mettre n'importe quoi dessus.
Oui.
C'est quand même super frustrant quand t'es à la fin de ta peinture et que tu décolles ton scotch et que t'as le papier qui vient avec. Ça, c'est la mauvaise surprise.
C'est clair, mais qui a dû arriver à tout le monde quand même, au moins
une
fois.
Oui, je te confirme.
Je crois que je l'ai jamais faite, hein, celle-là. Après, j'utilise pas beaucoup. Donc, quand je l'utilise, je fais attention, je regarde comment ça réagit. Et vu que souvent, je recoupe ça, des fois mes dessins, j'ai toujours des petites chutes qui traînent par là pour tester... comment ça réagit.
Moi, je m'en sers pour faire des bordures sur les feuilles pour qu'après, quand tu l'enlèves, ça fasse un peu comme un cadre. Quand tu peins un motif, par exemple, voilà, tu gardes un cadre blanc, c'est super joli. Donc, c'est là qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on utilise.
Ouais.
Ou pour faire des réserves à l'intérieur et pour pouvoir peindre autour et écrire après dans le cadre qui aura été réservé. C'est sympa. Hein.
Alors, ça, il y a le film de masquage aussi qui permet de faire ça pour avoir cet effet de créer des blancs à l'intérieur d'une composition, parce que moi typiquement j'ai une palette Crealia, alors qu'il y a déjà quelques années, mais il y a du blanc à l'intérieur, il y a un godet de blanc. Mais donc le blanc en aquarelle, en théorie, on s'en sert pas beaucoup.
Très peu, en principe, c'est pas une couleur, tu la trouves rarement dans les palettes, hein. Alors moi je suis comme toi, j'ai démarré avec une peinture Crealia, une palette Monali.
La petite Monali, bien sûr, Crealia, c'est pas du tout une Crealia, c'est Monali.
Voilà. C'est Monali. J'ai démarré avec celle-là aussi. Donc, en effet, il y a une couleur blanche. Alors, après, il y a des avis partagés. C'est vrai que normalement, tu n'utilises pas de blanc en aquarelle parce que le blanc, c'est le papier ou l'eau pour éclaircir. tu dilues avec de l'eau.
Oui, mais après, c'est justement...
ça peut avoir une utilité, oui. Il y a des gens qui s'en servent pour pouvoir mélanger des couleurs, les éclaircir, mais sans perdre en opacité. Parce que forcément, si tu éclaircis avec de l'eau, ta couleur, elle sera plus transparente. Donc, selon l'effet recherché, le blanc, ça peut être utile pour éclaircir sans rendre la couleur trop transparente et garder de l'opacité.
Je l'ai ajouté tout récemment, le blanc, à ma palette. Je l'avais pas pendant 2 ans et moi, j'utilisais le blanc du papier. Et tout récemment, je l'ai ajouté et des fois, pour une petite touche pastel, en fait. En effet, sans perdre en opacité, pour avoir un pastel, mais... Enfin, le papier, tout de suite, ça renvoie à la lumière, alors que là, ça va être un pastel un peu... pas éteint, je sais pas comment le dire, mais bah, là, il est utile. Mais finalement, c'est pas la première couleur.
Je fais ça avec un écru. Ouais, j'ai pas de blanc, du coup, j'ai aucun blanc dans mes palettes d'aquarelle, bah, à part la Mona Lisa dont on parlait. Dans toutes les autres, j'ai pas de blanc. Par contre, ce que j'utilise, c'est de l'écru de titane, où là, du coup, bah, ça me permet aussi de rendre des couleurs pastel, en rajoutant avec des roses, des bleus, des verts. Ça te permet d'avoir une couleur pastel, une déclinaison pastel de la couleur. Et puis, au moins, je peux utiliser mon beige tout seul quand j'en ai besoin.
Je l'ai vu dans ton livre et je l'ai mis dans tout en haut de ma liste de couleurs à acheter.
Elle est super, cette couleur. En plus, elle est texturée. Et en plus, c'est une couleur granuleuse. Donc, ça aussi, enfin, moi, c'est une des propriétés de l'aquarelle que j'adore. C'est quand tu peins sur le papier, les pigments, en fait, c'est des pigments spécifiques qui permettent d'obtenir cet effet. Et quand tu déposes ta couleur sur le papier, en fait, les pigments se séparent et rentrent dans le papier à différents endroits. Et à des endroits, du coup, tu as du pigment plus intense dans le grammage du papier. Enfin, c'est pas évident à expliquer, je sais pas si c'est très clair.
ça fait une texture, en fait. On voit vraiment un effet texturé naturel. Ouais.
Au lieu que tes pigments, ils se déposent de façon uniforme sur ton papier, eh ben, y a des endroits, en fait, où le pigment, il va plus se déposer dans les grains du papier qu'à d'autres. Et du coup, ça permet d'avoir ces effets. Ta couleur n'est pas uniforme. Et cet écru-là, il est comme ça. Donc, dès que tu le rajoutes à d'autres couleurs, ça te permet d'avoir ces effets de granulation. C'est super intéressant.
Ça marche. Alors justement, c'est une bonne transition pour parler des pigments, donc de la couleur, des couleurs qu'on va utiliser. Là, de la même manière, est-ce que vous avez des conseils? Parce que alors il y a les aquarelles Mona Lisa dont on parlait, et après il y a énormément donc de marques nationales qui sont là depuis très longtemps. Et puis ces dernières années, il y a énormément aussi de marques d'aquarelles artisanales qui sont nées. Est-ce que vous pouvez partager avec nous peut-être vos produits un peu chouchou, vos pigments, vos créatrices un peu chouchou?
Je commence?
Vas-y.
Déjà, comme ça fait la transition. Pour les débutants, je dirais, on reste avec peut-être une marque nationale. On va la retrouver à des tarifs peut-être plus abordables que parfois les artisans. Ouais, plus accessibles. Ouais. Avec une palette qu'on s'est formée. Et ensuite, pour se challenger, on peut justement aller vers ces artisans qui vont proposer aussi des palettes, mais aussi on peut acheter individuellement. Moi, j'aime beaucoup les palettes parce que les artisans, ils ont vraiment leur touche de couleur, et quand ils vont fournir une palette, c'est une histoire complète, c'est un univers complet qui vient avec. Et du coup, moi j'ai plein de petits chouchous, donc
vas-y.
Alors, on parlait granuleuses, j'aime beaucoup les Octarine aquarelles, qui fait de superbes aquarelles granuleuses avec même du duochrome. C'est-à-dire que quand on regarde le godet, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule couleur. Et quand on va travailler avec l'eau, les pigments, ils vont se séparer, mais en plus, il va y avoir deux couleurs et il va y avoir des changements, et des fois certains assez spectaculaires où ça va du turquoise à l'orangé sur le même godet. Et c'est naturel, en fait, dans le passage. C'est pas comme quand on veut faire une fusion entre deux pigments. Là, c'est magique. Donc ça, c'est très joli. Et après, chez les artisans, on trouve aussi beaucoup d'aquarelles à paillettes. paillettes, nacrées. Donc, il y en a plein. Hein. Rêve d'aquarelle, Sparks aquarelle. Je dois certainement en oublier, mais c'est une façon de se challenger, de découvrir autre chose, de rentrer dans un autre univers, que ce soit un univers coloré différent ou que ce soit des textures différentes. Et j'utilise les deux toujours. J'ai toujours ma palette classique et je vais commencer avec, et puis des fois je vais aller mettre des petites touches d'excentricité.
Ça marche. Et toi, Valérie?
Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le choix des aquarelles, là c'est pareil, quand tu débutes, tu as plusieurs gammes d'aquarelles aussi, même sur les aquarelles industrielles. Tu as les aquarelles fines et les aquarelles extra fines, donc là aussi, c'est pas la même qualité. Donc quand tu démarres, pareil, toujours dans l'optique, si tu veux pas allouer un budget trop élevé, tu peux commencer avec des marques, des gammes d'aquarelles fines qui permettent de pouvoir tester et voir si ça convient. Après, quand tu passes sur de l'aquarelle extra fine, ben, tu montes en gamme, la qualité des pigments est largement meilleure et là, ça te permet d'avoir pareil des couleurs beaucoup plus intenses, des résultats plus jolis. Du coup, bah, dans les marques, moi, j'ai commencé avec Sennelier, parce que comme toi, Léa, je suivais les conseils de Marie, de Marie Boudon. Et du coup, Sennelier, c'est une des marques avec lesquelles elle peint le plus. Et c'est vrai qu'il y a de très jolies couleurs. Et du coup, j'ai commencé ma première vraie palette qualitative. C'est sa palette signature qu'elle avait sortie chez Sennelier avec ses couleurs préférées. Parce que j'aime beaucoup toute sa palette de couleurs assez vives qu'elle utilise. J'aime beaucoup les roses, les verts qu'elle utilise. Donc j'étais partie sur ça. Et puis après, ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand tu te prends d'affection pour cette technique, t'as envie après d'essayer plein de choses. Et quand tu es sur Instagram avec les copines et que tu vois qu'une telle, elle a essayé ça, tu te dis, ah, ça a l'air trop bien, moi aussi je veux essayer. Ça devient vite la collectionnite aiguë en fait.
Ouais,
donc j'ai essayé plein d'autres marques, alors en godet, en tube, enfin, j'en ai partout. J'en ai plein. Au bout d'un moment, tu te dis bon, parce que c'est vrai qu'un godet, ça dure super longtemps. Tu vois un truc tout petit, tu te dis je vais peindre trois fois avec, il n'y aura plus rien. Non, non, pas du tout. Ça dure super longtemps parce que tu utilises peu de quantité à chaque fois. Et donc, j'essaye de me réfréner. Je me soigne un peu. J'essaye d'être raisonnable. Mais c'est vrai que tu as tellement de choix que tu as envie d'en essayer plein. Alors, les aquarelles industrielles, tu en as qui sont très bien. Donc, on citait, enfin, moi, si je peux citer, celle que j'adore. Malheureusement, c'est pas une marque française, je suis désolée. C'est les Daniel Smith. Moi, j'adore ces couleurs-là parce qu'elles ont, tu as des couleurs chez eux que tu ne retrouves pas dans d'autres marques. Ils font beaucoup de pigments duochrome, de couleurs duochrome et ils font des mélanges de pigments qui sont vraiment magnifiques. Ils ont beaucoup d'aquarelles granuleuses. Ils ont une gamme où ils utilisent des pigments naturels issus de pierre. Donc là, tu as des couleurs que tu ne retrouves pas dans d'autres marques. C'est vraiment très particulier. Et puis après dans les aquarelles artisanales, ben là c'est pareil, moi c'est quelque chose que j'ai découvert via la communauté aquarelle Instagram et ben là t'as envie de toutes les acheter tellement elles sont belles. Alors si tu me demandes des noms, je vais déjà citer celles qui ont collaboré avec moi dans mon premier livre, qui m'ont accompagnée, avec lesquelles j'ai eu le plaisir de peindre avec leurs aquarelles pour le livre. Donc il y avait Amy Octarine Aquarelle qui a des magnifiques couleurs, il y a Marie Atelier Couleurs Grenadine. C'est les toutes premières aquarelles artisanales que j'ai achetées, celles d'Axelie Couleur Grenadine.
Et elle a des fluos.
Oui, elle a des fluos, elle a des paillettes, elle a des couleurs granuleuses, duochrome, c'est magnifique. C'est, comme tu dis, tu utilises un godet de couleurs, ça passe du rose au bleu. Enfin, c'est... Ouais. Moi, j'adore ces couleurs-là, je trouve que c'est vraiment le côté magique de l'aquarelle. Ouais. Tu peins et tu as des effets un peu inattendus comme ça, c'est... Enfin, moi, j'adore. J'aime bien quand c'est pas une couleur uniforme, ou j'aime bien quand il y a des mélanges. J'adore ça. Après, il y a Émilie Douceur Colorée, qui aussi a des paillettes, des fluos, des couleurs super jolies, une grande palette de couleurs. Il y a Charlotte de Jolie Graine, aussi, qui a de très belles couleurs. Les couleurs sont, il y a quelques duochromes aussi et granuleuses. Après, elle a beaucoup de couleurs, elles sont très riches et très intenses, ces couleurs, quoi. Elles sont onctueuses. Chacune après a sa technique pour les fabriquer, donc elles sont pas toutes pareilles. Elles sont très belles aussi. Après, j'aime beaucoup Aquarelle de Provence aussi, qui a beaucoup de pailleté aussi. C'est des aquarelles véganes qui sont très jolies aussi. Et puis, il y a les couleurs VF. Les couleurs VF aussi, elles sont magnifiques, les couleurs VF. Mais après, c'est vrai que c'est ce qu'on disait, ça, tu investis dans ce type d'aquarelle-là quand tu es déjà un petit peu aguerri, on va dire, dans ta technique, dans ta pratique de l'aquarelle, parce que c'est quand même beaucoup plus cher que des aquarelles industrielles. Et voilà, tu te permets de t'offrir ça quand t'es un peu plus à l'aise dans ta pratique et que t'as pas peur de gâcher du si beau matériel.
Oui, 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 ou que tu te fais plaisir aussi. Il y a des fois, c'est comme si tu t'hésites à te lancer à la couture, en couture, et puis que finalement, tu dis, ah, j'ai trop envie de me faire cette robe, et c'est peut-être pas forcément pour les débutants. Bon, bah, en même temps, si t'es vachement motivé et que ça permet d'apprendre. Bon,
tu achètes un super tissu de folie, tu croises les doigts pour pas l'abîmer et voilà.
Ouais, après voilà, pareil. C'est des challenges. Ouais, c'est un peu des challenges aussi quoi. Moi, je peins très peu, mais j'ai aussi acheté des aquarelles chez Jolie Graine, chez Charlotte, les pailletés qu'elle avait fait en sérigraphie, ouais. Là, qui était hyper jolie et tout ça. Et donc, je les utilise par petites touches, effectivement.
Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est vachement agréable. Puis du coup, en plus, voilà, tu te dis, tu fais travailler des artisanes qui font leur métier avec passion. Ça prend du temps pour avoir vu faire Valérie d'Aquarelle de Provence. Je l'ai vu fabriquer ses aquarelles. C'est vrai que c'est beaucoup de temps de travail pour elle, pour rechercher les pigments, faire leurs essais, pour trouver une nouvelle couleur, créer des palettes justement avec des couleurs harmonieuses. Enfin, c'est un gros boulot pour elle. Donc, c'est normal que ça soit un peu cher à l'achat parce qu'elles ont un coût de matière première et le temps de travail consacré, qui sont conséquents. Donc, voilà, c'est sûr que tu n'achètes pas ça comme un petit tube. C'est pas la même démarche. Mais voilà, ça permet aussi de pouvoir faire travailler ces artisanes passionnés. Moi, je trouve ça super, ouais, de pouvoir les deux. Voilà, tu fais les deux, un peu d'industriel et puis de l'artisanal à côté. Et tu te fais plaisir comme ça.
Pour moi, l'expérience, elle est complètement différente. Avec les aquarelles industrielles, bah, j'en ai, hein, ma palette principale, c'est essentiellement ça. Et ça va être des couleurs que moi, j'affectionne, et de différentes marques. J'ai encore le Sennelier, j'ai du Winter Newton, j'ai du Daniel Smith, j'ai les trois. Et du coup, j'étais piochée dans ces marques pour faire ma palette à moi. Alors que quand je vais aller chez un artisan, souvent, je vais sélectionner une palette qu'ils vont proposer à un instant T. En plus, ça évolue au fil de l'année, des collections d'année en année. Et il y a un vrai travail que l'artisan a fait pour réunir une palette à la fois dans l'air du temps, qui lui ressemble, qui reprend voilà, les envies. On parlait de rêve d'aquarelle. Bon, par exemple, là, il y a la petite palette Laponie que j'ai testée en dot. En plus, ça existe, ils font maintenant de plus en plus des dots si on n'a pas envie d'acheter une palette complète, oui. Donc un demi-godet où, en effet, c'est un certain tarif. Ils font beaucoup de dots, donc c'est juste un petit point sur une feuille de papier. Alors, au niveau packaging, il s'applique, c'est super mimi. C'est sûr que c'est quand même pas un demi-godet qu'on va pouvoir transporter de partout, mais pour plonger dans l'univers de cet artisan, tester cette palette qu'il a mis du cœur à découvrir avec vraiment des teintes qui s'harmonisent bien ensemble, je trouve ça juste génial.
Puis c'est des couleurs que tu vas pas trouver ailleurs dans le commerce, qui sont vraiment spécifiques, qui ont été fabriquées par l'artisan, que tu n'iras pas retrouver ailleurs, voilà, et ça te permet d'avoir des choses un peu vraiment originales, ouais.
Ouais, et les dots, tu t'en sers quand même longtemps, parce que tu dis il y a une pointe, mais c'est quand même suffisamment d'aquarelle, de pigments pour peindre plusieurs fois avec. Hein.
C'est pas juste ça fait comme un petit poids, quoi. C'est ça, c'est la taille d'un petit poids à peu près, quoi. Ouais. Donc oui, t'as quand même de quoi t'en servir.
Tu vas pouvoir faire tes essais. C'est sûr, si tu veux l'utiliser en quotidien, après tu vas acheter le demi-godet, mais tu vas pouvoir faire quelques aquarelles avec ta petite palette de dots.
Ça marche. Et alors, c'est quoi la différence est-ce que c'est une question d'usage, de préférence entre l'aquarelle en tube et l'aquarelle en godet ou en demi-godet?
Moi, je dirais de préférence. Qualitativement, je vois pas. Enfin, c'est pas exactement quand même pareil. Moi, ce que j'avais suivi un peu les conseils où j'ai commencé avec des godets et quand après, parce que financièrement c'est plus intéressant, je les re-remplis avec le tube. Mais c'est quand même pas tout à fait pareil, donc faut un petit gymnastique d'esprit pour passer de l'un à l'autre, parce qu'en tube, ça va être... on va tout de suite attraper plus de pigments, parce qu'il est pas aussi dur que le godet, où la peinture, elle a bien été tassée, elle a bien durci, donc va falloir aller récupérer le pigment. Avec le tube, même si on le laisse sécher, je trouve que le pigment, ça s'attrape tout de suite beaucoup plus vite, donc si on veut pas manger tout le godet d'un coup, faut être un peu plus vigilant sur la récupération, mais par contre... L'un ou l'autre, je pense que c'est de la préférence et comment on se sent avec sa palette.
Moi, j'ai fait les deux. Enfin, j'ai commencé aussi, je pense, un peu comme tout le monde avec des godets, des palettes de godets. Et puis après, comme tu dis, si tu veux essayer d'autres couleurs, enfin, ou si t'as, une fois que tu as tes couleurs de prédilection, que tu as déjà bien entamées, c'est plus intéressant financièrement d'acheter du tube que du godet. Ça dure plus longtemps. Et surtout, les Daniel Smith qui sont quand même assez chers, tu achètes un tube, tu sais qu'au moins tu vas, voilà, ça va te durer un petit moment. Mais les Sennelier ou les Winsor & Newton, pareil. Donc, quand tu as une couleur que tu aimes bien, il vaut mieux acheter le tube que le godet. Après, moi, pour le livre, j'ai beaucoup travaillé avec les tubes. J'ai acheté une palette hermétique chez Cultura avec des petits compartiments pour pouvoir mettre ta peinture en tube. Et après, tu as des grands espaces pour faire tes mélanges. Ta palette, comme son nom l'indique, elle est hermétique. Quand tu la fermes, la peinture, elle est bien conservée. Mmh. Et à chaque fois, tu réactives la peinture qui a séché. Tu la réactives avec de l'eau. Comme tu le ferais avec un godet. Et du coup, je trouve que la couleur se réactive un petit peu mieux. Je sais pas, ça fait un effet un peu différent, quoi. Et puis le fait de le mettre dans ces petits compartiments, je trouve que c'est pratique pour aller chercher ta peinture, parce que dans le godet, en général, tu vas au milieu, puis tu fais vite un trou au milieu de ton godet, et tu utilises, t'as du mal à utiliser le tour, le reste de ton godet, donc en général, t'as un cratère, alors que là, finalement, dans cette palette-là où tu peux étaler ta peinture un peu mieux, je trouve que c'est super pratique, voilà. Donc la palette hermétique, là, de Cultura, pour utiliser avec les tubes de peinture, c'est pratique, c'est vraiment top. Mais après, ouais, l'utilisation, elle est un peu similaire, quoi.
Ouais. Ok.
Par contre, quand tu utilises la peinture qui sort du tube fraîche, pas séchée, là, c'est encore autre chose parce que ta couleur, elle est vachement plus intense.
Ouais, c'est ce que disait Léa, qui quoi, en mettre moins aussi, ouais, peut être un peu plus fouillé.
Mais quand elle sèche, quand elle sort de ton tube, donc il y en a qui le font d'utiliser, de mettre dans leur palette pour mélanger, ils mettent un petit peu de la peinture qui sort du tube et tu l'utilises fraîche comme ça.
D'accord.
Et ça te permet d'avoir une intensité dans les couleurs vraiment sympa.
Et alors, des fois, je vois aussi des personnes qui vont finalement réhydrater un petit peu la peinture avant de démarrer. C'est ça qu'ils vont mettre avec une pipette. Une pipette,
je fais au pinceau. Je n'ai même pas acheté de pipette. Au pinceau.
Ouais. Et donc, tu mets une goutte d'eau, c'est ça? Il faut démarrer. Ça, c'est valable pour tout le monde, c'est pas que les experts.
Oui, bah pour quand tu utilises ta couleur qui est sèche, du coup, il faut la réactiver. Donc, où tu mets directement ton pinceau mouillé, mais t'es obligé quand même de mettre de l'eau et puis de mélanger avec ton pinceau pour bien réactiver ta couleur.
D'accord, ok.
Et tu mouilles bien le dessus de tout ton godet pour pouvoir faire un petit mélange en surface.
D'accord.
Voilà. Comme disait Valérie, sur l'aquarelle en tube, il n'y a pas besoin parce que elle est quasiment déjà active.
Elle est toute crémeuse.
C'est ça. Là où les engodés, et d'autant plus sur des aquarelles à paillettes, il y a un certain temps avant que l'eau pénètre les pigments et que tu puisses t'en servir.
D'accord.
Donc, pour les aquarelles standards, c'est 30 secondes et puis c'est bon.
Oui,
pour
des
aquarelles pailletées, bah oui, un petit pchit ou un petit pipette et attendre une petite minute que ça se fasse.
Mais t'es obligé en fait, comme ta peinture est sèche, t'es obligé de la réactiver avec l'eau comme ça. Donc moi je fais les deux, un coup avec le pinceau. Après quand je veux réactiver plusieurs couleurs en même temps, au lieu de faire avec le pinceau, c'est vrai que je prends la pipette parce que le pinceau souvent tu touches un peu, donc tu mets de la couleur, faut rincer entre deux couleurs. Donc avec la pipette, c'est les couleurs VF souvent tu vas faire ça aussi là. Et tu mets une petite goutte d'eau sur chaque godet, tu laisses agir et puis après tu fais ton petit avec le pinceau, tu récupères ta.
Ça marche. Pour les plus expérimentés, est-ce qu'il y a vraiment des petits conseils, tu vois, pour faire cette transition entre j'aime peindre et vraiment je prends plaisir à peindre, etc. Et les petits trucs qui vont faire une grosse différence. Est-ce qu'il y en a?
On disait tout à l'heure le papier, le choix du papier, le pinceau aussi qui a son importance. Puis ce qui est bien aussi, c'est peut-être ce qui est difficile, c'est d'arriver à développer son propre style, parce que souvent quand tu débutes tu vas t'inspirer de ce que font les autres, tu vas un peu copier, parce que c'est pas évident de trouver une idée que personne a eue en disant tiens je vais inventer quelque chose. C'est quand même pas évident de peindre comme ça, de trouver l'inspiration pour peindre quelque chose que tu vois pas trop ailleurs, donc c'est pas évident, donc forcément tu vas reproduire ce que tu vois. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver au fil du temps à te détacher de ça, d'arriver à découvrir tes propres préférences dans la façon de tenir le pinceau aussi. Est-ce que j'aime faire un dessin super net avec le pinceau avant et peindre à l'intérieur, ou est-ce que j'utilise le pinceau de façon beaucoup plus relâchée, je cherche pas le geste parfait, parce que là aussi t'as plusieurs styles dans la façon de peindre, t'as des aquarellistes qui peignent pas du tout de la même façon, qui font des gestes souples, un style un peu loose. Après, t'en as d'autres qui peignent de façon beaucoup plus structurée, définie. Donc, ce qui est bien, c'est de voir différentes façons de peindre. Et puis, à force de s'entraîner, de dire, moi, je préfère ça, je suis plus à l'aise avec tel style. Et arriver, du coup, à avoir sa propre façon, s'approprier et découvrir sa propre façon de peindre, celle avec laquelle on est le plus à l'aise, sa façon de tenir le pinceau, comment je vais m'en servir. Voilà, arriver à se détacher de ce que font les autres pour garder ce qui nous plaît le plus et avec lequel on est le plus à l'aise. Et pareil sur les couleurs, de pouvoir aussi avoir, de se dire, moi, j'ai une préférence pour tel type de couleur, et un peu se constituer sa propre palette de couleurs, ce que tu disais, Léa, tout à l'heure.
Ouais.
T'essayes, tu dis, moi, je préfère plutôt un rose comme ça, plutôt un bleu comme ça, plutôt un vert comme ça, ça, j'aime pas trop. Et puis du coup, au début, tu suis les conseils des autres, tu utilises les palettes que conseillent les autres, et puis petit à petit, tu fais tes propres choix et tu arrives à te faire aussi ta propre palette de couleurs qui va être un peu une signature aussi dans ta façon de peindre. C'est toujours sympa quand on peint de dire « Ah oui, tiens, ça, j'ai reconnu que c'était toi parce que c'est ton style. » Ça, je crois que c'est un des compliments qui m'a le plus touchée. C'est quand on dit comme ça « Ah ben, ça, je l'ai vu dans mon feed Instagram, je savais tout de suite que c'était toi, c'était ton style. » Et je trouve ça super touchant parce que tu te dis, t'as réussi, tu vois, quelque part à faire quelque chose qui te ressemble à toi et qui ressemble plus à quelqu'un d'autre. Ça. Et du coup, tu te dis, c'est quand même un peu un aboutissement dans ta pratique, quoi. Tu te dis, bon, tiens, c'est que j'ai quand même réussi à m'approprier ce que je fais. Et là, tu prends plaisir vraiment parce que tu te laisses moins influencer par ce que tu vois et tu te fais plaisir pour toi, pas juste pour arriver à refaire ce que font les autres.
Ouais, carrément. Léa, tu veux compléter ?
Je rejoins Valérie, c'est-à-dire qu'au début, quand on est débutant, on va suivre ne serait-ce déjà qu'un artiste ou un livre, un conte qu'on va suivre, reproduire les pas à pas. La première étape, c'est de plus suivre un conte, mais d'en suivre plein, aller piocher un peu partout qu'est-ce qu'on aime. Et en fait, à chaque fois, on va piquer une technique, une couleur, on va faire notre propre petit mélange, on va dire, de tout ce qu'on a appris chez les autres, et rien que ce mélange, il sera unique, sans forcément avoir réinventé quelque chose, rien qu'en allant piocher et une palette de couleurs par ici, et une autre couleur finalement qui nous a parlé, qu'on a vu ailleurs, et une technique avec le sel, je n'en sais rien, d'un endroit, et finalement, on aime tellement le sel qu'on va en mettre à chaque fois, et en fait, on va créer notre univers. Déjà, rien qu'en allant piocher dans les livres, dans les contes des autres. Ouais. Et puis la tape encore après, c'est ne plus piocher, mais voir quelque chose et l'emmener directement dans son univers sans même avoir besoin de suivre un pas à pas ou un tuto. Voir, je ne sais pas qui a fait une magnifique boule de Noël. Ah tiens, et si moi je voulais faire une boule de Noël, comment je l'aurais fait ? Sans même suivre un pas à pas, un tuto, juste l'idée de la boule de Noël, comment moi je l'aurais interprétée ?
C'est ça. Ouais, c'est nickel. Vrai qu'au début, c'est un peu indispensable d'aller regarder des livres, d'aller regarder des vidéos de personnes dont tu aimes l'univers. Et on fait tous, enfin, je pense qu'on démarre tous comme ça. C'est normal. C'est inévitable. Voilà. Moi, c'est ce qu'on disait. On citait Marie, par exemple. Pour moi, c'était la référence et je la regardais beaucoup. Puis après, je suis allée en voir d'autres. Je suis allée voir Blanche, L'eau bleue, Jenny Illustration. Et puis après, il y a Van Cleer, Saléante, que tu connais bien, Mélanie. Et puis, du coup, tu vois, c'est des univers complètement différents. Elles ont des styles, des façons de peindre différentes. Elles utilisent des palettes de couleurs différentes. Mais comme tu dis, Léa, tu t'imprègnes de tout ça. Tu fais des essais en les suivant, elles. Et puis, du fait que ça soit des univers complètement différents, petit à petit, tu t'appropries ce qui te plaît, tu gardes de l'une plutôt tel truc, de l'autre tel autre truc, et puis tu fais un mix de tout ça et tu arrives à faire ressortir quelque chose qui t'appartient, qui t'est propre derrière. Et puis, et comme tu dis, après, tu vois une fleur dans le jardin, tu dis « Ah tiens, ça me plaît trop », et hop, tu te mets à peindre la fleur et tu vas pas te dire « Tiens, comment elle la peindrait, elle ou elle ?» Oui. Non, tu vas être suffisamment à l'aise pour te dire, moi, ça va être comme ça, et tu fais tes essais, et tu peins, et tu obtiens quelque chose d'unique qui est ton style à toi, et ta fleur, ça sera ta façon de la représenter et pas celle de quelqu'un d'autre.
Oui, pour un débutant, arriver sur une feuille blanche et se dire, mais quelle couleur je vais utiliser, quel assemblage je vais faire, quelle forme, comment je vais tenir mon pinceau, ça fait trop d'un coup.
Oui, c'est impossible. Ouais. T'as besoin d'être un peu encadré. Ouais.
Ça. On démarre en suivant, et puis après, on va suivre un tuto, mais adapter à sa palette de couleurs, pas utiliser la palette de l'artiste. Et d'autant plus que chaque artiste a sa palette de couleurs, on va pas collectionner les aquarelles. Donc la première étape, c'est je suis un tuto, mais je vais pas acheter les couleurs qu'elle recommande, mais comment j'aurais fait avec ma palette pour obtenir les mêmes couleurs. Et puis voilà, plus ça va, plus on se détache de ce qu'on voit et plus on fait avec ce qu'on sait faire et ce qu'on a autour de nous.
Ouais, génial. Eh bien, parfait. Bon, c'est bon, vous m'avez encore convaincue. J'ai envie de sortir de l'aquarelle. Bon, j'avais autre chose de prévu cet après-midi, mais je vais annuler mon enregistrement. Je vais parler couture.
Écoute, faudra qu'on se cale pour se faire un petit atelier, ces quatre, tu vois. Au prochain salon Création et Savoir-Faire, si on y arrive, on pourra se faire un petit atelier.
Ouais, ça serait top. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux. Et qu'une mention spéciale, Valérie, t'étais pas très en forme, t'étais un peu malade, mais finalement, ça passe.
Désolée pour la voix enrouée. J'ai réussi à éviter les câbles de tout, mais désolée pour la voix un peu rocailleuse.
Donc merci beaucoup Léa, merci Valérie, et merci puis à bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Me revoici. Bon, on aurait pu continuer longtemps car le sujet est passionnant, non ? D'ailleurs, je vous rappelle que toutes les recommandations de Valérie et de Léa sont à retrouver sur la page dédiée à l'épisode du podcast sur culturacrea.fr. Donc pas de panique si vous n'avez pas noté une référence. Et vous pouvez également admirer les créations de Léa et de Valérie sur cette même page et évidemment sur leur compte Instagram respectif. On a hâte de voir vos créations à vous sur culturacrea.fr. C'est on ne peut plus simple, c'est gratuit et c'est un espace très convivial, il ne faut pas hésiter. Et bien sûr, pensez à vous abonner au podcast sur l'appli de podcast que vous utilisez. Là aussi, c'est gratuit et ça vous permet d'être alerté à chaque nouvel épisode. De mon côté, je vous donne rendez-vous d'ici 2 semaines pour la suite de nos rencontres DIY. À bientôt !